Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone.
Ici Sébastien Dhaune, bibliste. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Êtes-vous prêts? Avec moi, on va s'aventurer dans les pages les plus étonnantes, mais aussi les plus intéressantes de la Bible. Avez-vous déjà lu les Actes des apôtres? On retrouve ça après les Évangiles, c'est le récit des apôtres une fois que Jésus est mort et ressuscité. On y trouve en particulier un passage qui est assez intéressant, un peu difficile à comprendre. On a deux chrétiens qui, tout d'un coup, se font foudroyer par Dieu pour une question d'argent et de mensonge. Aujourd'hui, nous allons regarder le récit d'Ananias et de Saphira, un couple au destin aussi étrange que tragique. Bonne émission! Pour commencer, j'aime donner la parole à ceux et celles qui nous écrivent pour poser leurs questions, donner leurs commentaires sur les émissions précédentes. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu différent, je vais vous lire une présentation du livre dans lequel j'ai mis par écrit les réflexions abordées dans cette série. Alors, merci au père Gérard Marié qui l'a lu et me l'a montré. Ça se retrouve dans la revue Notre-Dame du Cap de la plume de son rédacteur en chef, Jérôme Martineau. Alors, je vous lis ce qu'on y retrouve. Les récits insolites de la Bible. Une lecture attentive de la Bible nous permet d'observer que nous y trouvons des textes qui nous posent des questions, tant sur leur pertinence que sur le fait qu'ils soient vraisemblables. Que faut-il en penser? Plusieurs croient que tout ce que la Bible raconte est essentiellement historique. Sébastien Dhaune, bibliste, répond dans son livre à plusieurs de ces questions. L'une d'elles est formulée ainsi. D'où vient la femme de Caïn? Bonne question. Sébastien Dhaune présente 24 textes intrigants. Il pose pour chacun d'eux une réflexion qui nous présente sous un nouveau jour. Il faut savoir que les récits bibliques ne sont pas des chroniques historiques. Il faut pouvoir les interpréter et les situer dans leur contexte rédactionnel. C'est le travail que fait cet auteur avec attention et intelligence. À lire! Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le titre du livre, c'est « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » chez Novalis et Médiapole que j'ai écrit Sébastien Dhaune. Pour nous faire parvenir vos commentaires, vos questions, comme à chaque semaine, je vous donne le courriel de la station, c'est auditoire@radiovm.com. Vous n'avez qu'à inscrire que c'est pour Sébastien Dhaune. Et je termine en saluant un auditeur, Julien, qui nous écoute de Floride via Internet. Alors, tous ceux qui nous écoutent via Internet, considérez-vous comme salués. Après quelques mesures de musique, on vous présente le récit étonnant de la mort d'Ananias et de Saphira. Si vous nous suivez Bible en main, vous trouverez le texte qu'on va lire dans les Actes des Apôtres. Et je vous invite à aller au chapitre 5. Puis pour se donner un peu le contexte du récit, juste avant ce qui nous intéresse au chapitre 4, on présente une vision de ce que devrait être la communauté chrétienne idéale. Alors je vous cite Actes chapitre 4, verset 32. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. » Ça, c'est les Actes, chapitre 4, verset 32, juste avant notre histoire. Puis ça continue, on mentionne alors un bon exemple. Il s'agit de Joseph, qui est surnommé Barnabas, qui lui a vendu son champ pour remettre tout son argent aux apôtres. Est-ce que l'exemple de Barnabas va être suivi par Ananias et Saphira? C'est ce qu'on va voir. Je vous invite à écouter leur histoire. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 1 à 11. On écoute ça.
Un homme du nom d'Ananias vendut une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit-Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre ou, si tu le vendais, disposer du prix à ton gré? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ s'écoulèrent. Sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, c'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain? » Elle dit, « Oui, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre reprit. « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? » Écoute. Les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter, toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement.
L'image de Dieu qui est projetée par ce texte est pour le moins étonnante. Un Dieu qui punit par la mort. Alors qu'Ananias et Saphira n'y ont rien volé, ils ont même remis aux apôtres une partie de la somme de la vente de leur propriété. Mais ils ont gardé une part de l'argent et ils ont menti. C'est ce mensonge-là qui va leur valoir la mort subite. À la condamnation de Pierre, les deux tombent et expirent. Il y a l'image de Dieu qui nous étonne, mais il y a l'image de Pierre aussi, qui n'est pas tellement plus reluisante. C'est lui qui va condamner à mort le couple. Et sa dureté étonne le lecteur, parce que, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a nulle part ailleurs dans les Actes des Apôtres ou dans les Évangiles où on voit Pierre qui va parler d'une façon comme ça, aussi dure. Enfin, il semble y avoir une disproportion entre la faute commise puis la peine infligée. Comment est-ce qu'on peut parler d'un Dieu d'amour et de pardon entre frères quand on voit que quelqu'un va mourir comme ça? Alors bon, on va y revenir à cette question de l'image de Dieu. Pour comprendre notre récit, une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a un qui ressemble beaucoup à ça dans l'Ancien Testament. C'est la faute d'Acan qui est dans le livre de Josué, chapitres 6 et 7. Acan, c'est un homme de la tribu de Juda qui avait pris de l'argent, de l'or, une cape, qui faisait partie du trésor du Seigneur dans le temple. Dans les deux cas, les coupables sont mis à mort. La condamnation est prononcée par un représentant de Dieu. Alors, d'une part, c'est Josué, dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre. Et l'effet de cette mort va se faire sentir sur tout l'entourage. Le rapport entre les deux textes, on appelle ça dans le monde de la Bible une typologie, c'est-à-dire que le premier texte est le type ou le modèle du deuxième. Une des choses qu'on peut déjà retenir de notre récit, c'est que bon, ça fait voler en éclats un préjugé, une idée préconçue qu'on a, qui est assez réducteur, de dire que Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur et violent, puis que dans le Nouveau Testament, ben, c'est plutôt un Dieu d'amour et de pardon. Parce que, bon, d'une part, il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui donnent un visage de Dieu tendre, réconfortant, Alors que là, ben, on vient de voir un exemple dans le Nouveau Testament où Dieu est présenté comme quelqu'un qui juge et exécute sans autre forme de procès que ce qu'on vient de voir. Alors, dès que l'ascendance est donnée, la personne meurt, il était coupable. On peut aussi faire un lien entre ce récit et un autre. On a abordé la semaine dernière la mort de Judas. Ananias et Saphira, tout comme Judas, meurent pour une histoire d'argent. Et comme pour Judas, dans ce cas-ci aussi, c'est Satan qui remplit le cœur de la personne qui va commettre l'acte. Alors, au chapitre 3, verset 5 des Actes des Apôtres, on a ce verset qui dit que Satan prend le cœur d'Ananias, tout comme Jean, chapitre 13, verset 2, ou Luc, chapitre 22, verset 3, disait la même chose à propos de Judas. Est-ce qu'il faut imputer la faute à Satan? Est-ce que c'est de la faute de Satan? Ou est-ce qu'elle appartient à celui qui a laissé entrer Satan dans son cœur? On ne le sait pas, le texte ne le précise pas, mais il montre qu'il y a un rôle à jouer là-dedans. Selon Pierre, il faut tenir Ananias pour responsable dans le texte, puisqu'il a menti à l'Esprit-Saint. Cette expression « mentir à l'Esprit-Saint » pose problème, parce que ce n'est pas expliqué. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Au verset 5, Pierre dit que c'est à Dieu qu'Ananias a menti. Au verset 9, c'est Saphira qui provoque l'Esprit du Seigneur. Au fond, ce qu'on peut retenir, c'est que par leur action, le couple a menti à Dieu. Alors, probablement que c'est ça qui est derrière ça, mentir à l'Esprit-Saint. Pourtant, le verset 4 montre que la mise en commun des biens était facultative. Ils auraient eu le choix de ne pas mettre leur argent aux apôtres. Alors, je vais vous relire le verset 4. « Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? » Alors, c'est assez étonnant que le couple aurait pu garder ses biens. Alors, la faute ne consiste pas à garder l'argent pour soi, mais bien à avoir menti. Notons aussi que l'effet de la mort d'Ananias et celle de Saphira sur les chrétiens qui sont témoins de cette scène-là est assez important. Dans les deux cas, il y a une grande crainte qui saisit tous ceux qui l'apprennent. Verset 5, verset 11. Je crois que c'est là qu'on touche l'objectif de ce récit. Probablement que vous allez être d'accord avec moi que le récit manque un peu de subtilité, mais je crois que cet événement était probablement raconté pour inciter les chrétiens à être honnêtes dans le partage des biens avec la communauté. Un autre élément qui confirme cette interprétation-là, c'est que les versets qui précèdent notre récit donnent l'exemple de Joseph, surnommé Barnabas, qui, lui, avait remis tout son argent. Qui aurait envie de mentir aux apôtres après avoir entendu ce récit-là? Savez-vous quel est le genre littéraire de notre récit? Vous savez l'importance du genre littéraire, hein? On ne comprend pas un poème de la même manière qu'on va comprendre un article dans le journal. Donc, c'est important de savoir quel est le genre littéraire du récit qu'on a en face. Alors, c'est avec cette question-là qu'on va poursuivre, mais avant ça, on va prendre un peu de temps pour écouter un peu de musique. Vous êtes avec Sébastien Donde dans l'émission « Récits insolites de la Bible ». Aujourd'hui, nous parlons d'une histoire racontée par les Actes des Apôtres à propos d'Ananias et de Saphira qui ont menti sur l'argent qu'ils avaient remis aux apôtres suite à la vente de leur terrain. Avant la musique, je vous demandais à quel genre littéraire appartient ce récit. Eh bien, le passage sur la mort d'Ananias et de Saphira appartient à un genre littéraire qui est bien particulier. On appelle ça le « jugement de Dieu ». Dans ce type de récit-là, il y a toujours une faute d'un coupable qui est suivie d'un jugement et d'une punition de Dieu. Une des caractéristiques de ces récits, c'est qu'ils sont très stéréotypés. Les coupables le sont du début à la fin Et les oppositions sont très claires entre le mal, le bien, la vérité, le mensonge, la vie et la mort. Dans l'extrait du livre des Actes, on voit une opposition entre Ananias et Saphira, dis-je, qui font le mal, et Barnabas qui, lui, fait le bien. On a vu sur le récit de Barnabas qui précède juste le récit d'Ananias et Saphira, qui est comme un contre-exemple. Il y a deux autres récits de jugement de Dieu qui apparaissent dans le Nouveau Testament. Et ces deux-là vont montrer une punition qui est confirmée par un miracle. Il y a la malédiction prononcée sur le figuier, dont on a déjà parlé dans l'Évangile de Marc, chapitre 11. Et il y a aussi une malédiction qui est prononcée sur un magicien qui s'oppose aux apôtres. Ça, c'est dans les Actes des apôtres, chapitre 13. C'est peut-être un peu moins connu comme récit. Mais les deux sont des récits de jugement. Et ce qui surprend dans ces récits de jugement-là, c'est que Dieu, par ses miracles, va décider de punir, de châtier, au lieu de guérir. Parce que si on fabule, si on imagine tout ça, là, on pourrait se dire que l'histoire d'Ananias et de Saphira aurait pu se terminer autrement. Dieu aurait pu choisir de les avertir et de les guérir de leur cupidité, puis ça aurait pu faire une autre sorte d'exemple où justement, ils ont fini par avouer et remettre l'argent aux apôtres. Mais les récits de jugement de Dieu ne sont pas écrits pour montrer le pardon de Dieu. Ce n'est pas ça leur fonction. Leur fonction, c'est plutôt d'indiquer une règle, une norme à respecter, une loi à suivre. Et dans le cas d'Ananias et de Saphira, la règle touche au partage des biens dans la communauté. D'ailleurs, les versets qui précèdent notre récit donnent une image idéale de la communauté. Et on voit bien que qu'Ananias et Saphira ne vivaient pas cet idéal-là. Alors, à quelque part, c'est un contre-exemple. Je vais vous lire le passage au complet de l'idéal de la communauté en ce qui a trait au bien. C'est quand même beau, mais vous allez être d'accord avec moi que probablement que ça ne s'est jamais vraiment mis en pratique parce que c'est justement tellement idéal. Alors donc, Actes 4, versets 32 à 35. Je vous lis ça. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété, l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. » C'est dans les Actes des apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. On voit que le partage des biens est présenté comme ayant un lien direct avec l'unité de la communauté et le témoignage de la résurrection. Ça va ensemble. D'ailleurs, l'événement de la mort d'Ananias et de Saphira se passe à l'intérieur de la communauté. C'est toujours à l'intérieur de la communauté chrétienne, sauf au moment de l'enterrement où là, ils vont sortir pour aller enterrer le corps. Le lecteur moderne, on l'a vu, est choqué par le sort du couple qui est exécuté pour son péché, mais le but recherché, c'est pas tellement le sort des individus. L'accent n'est pas mis sur qu'est-ce qui arrive avec Ananias et Saphira, mais peut-être plutôt sur la communauté. Le récit, d'ailleurs, se termine avec la conséquence communautaire de tout ça, la conséquence ecclésiale. Toute l'Église éprouve une grande crainte. Le drame, c'est pas tant la mort des deux individus que la fin de l'harmonie dans la communauté qui devait être un seul corps, une seule âme, comme on vient de le lire dans les Actes. La communion fraternelle, c'est encore plus que la communauté, c'est une communion. C'est plus qu'un idéal philosophique, c'était l'essentiel de la vie de la communauté, et c'était son témoignage. C'était une façon de témoigner, de dire que nous, les chrétiens, on est différents des autres. On est capable de vivre ensemble puis de mettre les choses en commun. Alors là, de voir que ça ne marche pas dans la pratique, c'était comme un contre-témoignage. Une autre piste utile pour la compréhension du récit, ça serait d'établir un parallèle entre la faute d'Ananias et de Saphira et celle d'Adam et Ève, dans le livre de la Genèse au chapitre 3. C'est une analogie que j'ai trouvée très intéressante dans un livre de Daniel Margera, qui est un exégète suisse. Dans les deux cas, dans le cas d'Adam et Ève et d'Ananias et de Saphira, c'est un couple qui se rend coupable d'une mauvaise action. Il y a Satan qui joue un rôle, il y a un mensonge, et le résultat de l'action, c'est la mort, la destruction d'une harmonie initiale. Alors, tout comme Adam et Ève étaient dans un genre de paradis, le jardin d'Éden, mais cette première église était ensemble, en communion, un seul corps, une seule âme, et oups, il y a ce premier péché communautaire d'Ananias et de Saphira qui monte. Et l'harmonie n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça devient en quelque sorte le récit du premier péché de l'Église naissante, son espèce de péché originel. Mais quand on continue à lire les Actes des apôtres, on voit bien que ça ne se termine pas avec ça. Il y a d'autres choses qui se passent et peut-être que c'est ça. Hein? On a toujours un idéal, mais la réalité nous rattrape. Puis dans le fond, on essaye de vivre comme on peut dans la réalité qu'on a. Au-delà de l'étrangeté de ce récit, il fait partie de la Bible. Et je crois qu'on peut s'en servir pour réfléchir à propos de notre situation ecclésiale actuelle. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur notre situation, notre Église, aujourd'hui, à la lumière de ce texte-là? Bien, aujourd'hui, les communautés chrétiennes, c'est clair, on ne gère pas l'argent de la même façon qu'au début du christianisme, c'est normal. L'idéal de tout mettre en commun, ça a été abandonné depuis longtemps, sauf peut-être pour les communautés religieuses où chacun fait le vœu de pauvreté et que les biens sont mis en commun. Mais peut-être qu'il serait bon de retrouver le sens de la mise en commun de l'argent pour le bien de la mission de la communauté. Je pense à la quête, à la dîme, qui sont pas juste des façons de donner de l'argent à l'Église. C'est pas juste un don qu'on fait à l'Église. Mais peut-être qu'on pourrait voir ça comme une occasion de mettre nos biens en commun pour réaliser notre mission commune. Si nous sommes l'Église et que nous voulons poursuivre l'action de Jésus, on doit tendre la main aux plus pauvres, aux exclus, parce que c'est ça qu'il faisait, lui. Pourquoi pas mettre nos ressources en commun pour essayer de faire une différence? Malheureusement, mais la réalité de notre Église actuelle, c'est assez différent. La multitude des bâtiments patrimoniaux à conserver, à rénover, à chauffer, souvent avec un budget ridicule, a pour conséquence qu'il y a une diminution des initiatives pastorales, sociales ou missionnaires des paroisses. La crise actuelle dans l'Église a des répercussions sur plusieurs plans. Il y a la baisse de la fréquentation des sacrements, oui, mais ça entraîne aussi une baisse des vocations, une baisse de l'argent disponible dans les communautés. Pourtant, peut-être que cette diminution des ressources peut se transformer dans une circonstance favorable. L'Église, n'a pas le choix, elle ne peut plus se comporter comme une cour royale ou comme un gouvernement multipliant les subventions. Elle doit s'adapter et vivre une forme de pauvreté, je dirais, évangélique. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est Saint-François d'Assise. Je pense qu'il peut nous inspirer. Lui qui, par son idéal de pauvreté, a permis une vraie révolution dans l'Église de son époque, une Église qui était beaucoup plus proche des riches que des pauvres. Alors ça a permis une conversion à cette Église-là. On va voir qu'est-ce que ça va faire avec la nôtre. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine fois. J'espère que le récit de la mort d'Ananias et de Saphira vous encouragera à persévérer, au moins dans l'honnêteté. Si vous avez apprécié ces réflexions, je vous suggère le livre « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, écrivez-nous. Vous pouvez me rejoindre à auditoire@radiovm.com. Alors, ou par le courrier habituel ou le numéro de téléphone habituel de la station. La semaine prochaine, on va parler d'Eutyque. Est-ce que vous connaissez Eutyque? C'est un jeune homme qui va littéralement mourir d'ennui lors d'une homélie de Saint Paul. Mais rassurez-vous, Paul le ressuscite par la suite. Vous allez voir, ça aussi, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est toute une histoire. Pour le lire en avance et se préparer, vous pouvez faire ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 7 à 12. C'est ce dont on va parler la prochaine fois. En terminant, un mot pour remercier Marie Laferrière pour sa lecture biblique et Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Dorn, bibliste. À la prochaine.